Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation.
Les Anglais, ne sont pas pris très au sérieux sur le plan gastronomique.
Non.
Est-ce que ça les attriste ou est-ce que...
Les touristes anglais partout, ils cherchent leur tasse de thé et leur sandwich dans n'importe quel pays où ils se trouvent. Alors, un cup of tea, c'est tout ce qu'ils demandent. Même en Espagne, au lieu d'essayer des choses locales, qu'ils ont peur que ça va les donner un empoisonnement épouvantable. Alors que les Français pensent pareil quand ils arrivent en Angleterre et ils voient avec frayeur les steaks trop cuits et des affaires anglaises, mais les Anglais quand même sont un peu plus humbles vis-à-vis de votre art culinaire. Nous, c'est pas un art, il y a une cuisine traditionnelle qui est très bonne. Une chose que vous pouvez faire, c'est prendre une jambe de porc, le frotter avec de l'huile et du sel, et vous le massez comme si c'était quelqu'un. Vous le mettez dans le four pendant 3 heures, et après, vous servez ça avec des gelées de groseille. C'est délicieux, hein.
En 1983, Jane Birkin le reconnaissait, au niveau culinaire, les Français et les Anglais ne s'accordent pas. 40 ans plus tard, une étude de l'Office du tourisme britannique vient confirmer cette arrogance française, ou cette lucidité, c'est selon, si bien que l'hebdomadaire The Observer titrait fin mars 2024 « Pour les Français, la cuisine anglaise est nulle ». Déjà, en 2005, le président Jacques Chirac estimait à propos de nos voisins d'outre-Manche, je le cite, qu'on ne peut pas faire confiance à des gens qui ont une cuisine aussi mauvaise. Et on se souvient aussi de la blague de Coluche, la cuisine anglaise, c'est simple, quand c'est froid, c'est de la bière, quand c'est chaud, c'est de la soupe. Réputée sans goût, mollassonne, lourde, voire incohérente et aux consistances gélatineuses, la cuisine anglaise a longtemps été moquée et nombreuses sont celles et ceux qui, au retour d'un voyage en Grande-Bretagne et singulièrement en Angleterre, se sont jetés sur la bonne bouffe tricolore en soupirant de soulagement. Sauf que ce cliché serait en train de changer. On ne compte plus les articles récents sur le renouveau de la gastronomie anglaise. Les Français raffoleraient notamment des pies, les tourtes. Les ouvertures de pubs, d'épiceries traiteurs, de restaurants dans la capitale font le buzz. Un livre sur la cuisine d'Angleterre vient de sortir aux éditions La Martinière. Et on assisterait à une vague de jeunes chefs anglais pleins d'envie et de talent. D'où notre émission du jour, au titre légèrement provocateur. Les Anglais auraient-ils appris à bien manger ? Deux ambassadeurs sont avec nous. Oliver Woodhead, bonjour à vous.
Bonjour, hello.
Bienvenue, vous êtes l'ambassadeur du goût anglais à Paris depuis 2017, chef du restaurant L'Entente, le British Brasserie. C'est à Paris, dans le 2e arrondissement. Mais la cuisine anglaise a aussi son ambassadrice de la connaissance, du savoir, des recettes, de l'histoire depuis 2006. En la personne d'Hélène Picken, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes responsable du blog Référence de cuisine anglaise chez Becky et Liz, où vous proposez à la fois des recettes de chefs anglais, où vous racontez l'histoire des plats, vous parlez des produits, vous donnez les adresses de bons restaurants, etc. On entendait donc Jane Birkin parler en 1983 en disant que la cuisine anglaise, ça n'était pas un art culinaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, cher Oliver Woodhead ?
Peut-être à l'époque, oui, à cette époque-là. Mais j'étais toujours très petit. Mais non, aujourd'hui, non, j'étais à Londres il y a quelques semaines. C'est impressionnant. C'est vraiment, ça bouge dans tous les sens.
Oui, je confirme. Mm. Londres, c'est magique pour la cuisine anglaise.
Mm. Et bien, c'est nouveau. Ça a quelques années.
10 ans, une dizaine d'années.
Oui. Ouais. J'avais la chance, c'était un restaurant assez connu qui s'appelle St. John. Il vient d'ouvrir un 4e. Eux, ils existent depuis 27 ans. Et c'est vraiment c'est le bastion, le cœur de la cuisine. Mm. Aujourd'hui, de la cuisine britannique, il y a beaucoup de chefs réputés maintenant qui sont passés par là. Il y a même 2 ou 3 en France.
C'est un excellent restaurant.
Oui, oui.
Ouais. Comment expliquer, la question je vous la pose à tous les deux, comment expliquer à la fois cette mauvaise réputation? Est-ce que c'est vrai que les Anglais ne savent pas manger ou ne savent pas cuisiner traditionnellement? Comment expliquer cette mauvaise réputation? Ou bien c'est l'arrogance française, c'est pas du tout impossible. Et comment expliquer ce renouveau depuis donc une quinzaine d'années? Hélène Picken.
Alors, c'est déjà les voyages scolaires, les souvenirs de voyages scolaires qu'on a, nous les Français. Et puis, il y a peut-être une partie historique. Il y a eu un déclin de la cuisine anglaise à l'époque victorienne. Et ensuite, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu une période de rationnement qui s'est étalée sur 50 ans. et les
avec les boîtes de cornets de bif,
voilà,
c'est des mauvais souvenirs.
Et vous avez toute une génération d'Anglais qui ont été élevés aux œufs en poudre, aux conserves. Donc je pense que l'Angleterre s'est jetée trop rapidement dans la modernisation de l'alimentation. Et ils ont oublié leur terroir.
Exactement, ouais, absolument, c'est historique, c'est grâce à plusieurs choses, mais également avec une technologie française. Mais c'était un moment de la révolution industrielle. Et ensuite, il y avait l'Empire, et on envoyait beaucoup de nourriture salée et sucrée pour être transformée et mise dans les boîtes à conserve, qui était une technologie française, qui n'était pas très populaire, pas bien vue, mais chez nous, pendant cette révolution industrielle, c'était génial pour renvoyer sur cette nourriture qui vient de l'Empire, on va transformer et renvoyer avec les marins, les soldats, etc. Et ensuite, il y avait ce côté puritain aussi, des protestants, qui dit on peut pas prendre plaisir avec rien, surtout pas à table. Et voilà, c'est petit par petit.
Il y a eu un renouveau dans les années 90 suite aux crises sanitaires. Et puis je crois qu'il y a eu une récession économique aussi qui ont ramené les Anglais en cuisine, à cuisiner les produits locaux.
Comment avez-vous appris, vous, Oliver Woodhead, par exemple? Qui vous a appris à cuisiner?
Alors, je suis le restaurateur. J'ai passé plusieurs années en cuisine. Je suis pas chef. Je suis en salle plupart du temps. Et on dirait, oui, c'est ma mère. J'ai toujours vu beaucoup des plats. Mais j'étais pas très intéressé dans la nourriture jusqu'à j'arrive en France, pour être honnête. Oui.
Alors que vous, Hélène Picken, je crois que c'est votre belle-mère
anglaise. C'est ma belle-maman, mais j'ai aussi fait l'école hôtelière.
Vous avez appris la gastronomie.
Ça m'a aidé un petit peu. L'école hôtelière m'a aidé un petit peu. Mais c'est vrai que c'est ma belle-maman qui m'a transmis l'amour de la cuisine britannique.
Alors, comment expliquer maintenant ce renouveau? C'est-à-dire, effectivement, vous disiez, Hélène Picken, que les Anglais avaient eu tendance, sans doute, à oublier leur terroir, à oublier leur savoir-faire, peut-être ancestral, parce que c'est comme une cuisine médiévale, hein, fut-elle temps où elle était préparée avec des bons produits.
C'est une cuisine
avec un terroir fou, avec 700 fromages, on a tendance aussi
elle
à l'oublier.
Elle a toujours ses fromages.
Oui, justement.
Ah oui.
Ceux-là, on les a bien. Oui. Et puis des grands plats mythiques, le bœuf Wellington, le fish and chips sur lequel on reviendra, bien sûr. Mais donc, elle avait oublié son terroir, elle le redécouvre. À l'occasion, vous dites sans doute, des crises, notamment les crises de la vache folle.
Les émissions de télévision, les shows télévisés ont beaucoup aidé. Hein. Ils étaient un peu précurseurs des shows et Gordon Ramsay, Jamie Oliver,
grand
ils
chef,
ont quand même aidé à faire renaître certains plats traditionnels britanniques.
Vous êtes d'accord, ouais. Oliver?
Oui, absolument. Et je reviens rapidement au pays. On a une île, alors il y a le fruit de mer et les poissons partout. Et ensuite, il pleut beaucoup. Et quand il pleut, il y a les belles herbes. Quand il y a les belles herbes, vous avez des belles bêtes. Quand vous avez des belles bêtes, vous avez des belles crèmes et beurre,
et
etc.
Exactement.
Alors, il y a les produits, ils étaient toujours là. Et c'était bon pour les vrais paysans et pour les riches, mais tout ce qui était au milieu, c'était perdu pendant facilement un siècle, c'est vrai.
Et les nouveaux agriculteurs ont diversifié leur production. Ils font du fromage. Depuis 90, on voit des nouveaux fromages arriver sur le territoire anglais.
On a une amie, c'est elle qui a monté à Borough Market. Elle est le chef de la jury, bien sûr, de le concours de charcuterie britannique. Par exemple, aujourd'hui, on ne rend pas compte, mais il y a des milliers de personnes qui font ça. Avec beaucoup. Après, vous avez des Polonais qui sont arrivés, les X et Y, les Z. C'est vraiment mélangé maintenant. Aujourd'hui, un melting pot en Grande-Bretagne. Il n'y a pas que Londres, bien sûr, il y a toutes les autres villes, mais vraiment, il y a tout.
Il n'y a pas que Londres, mais on a quand même l'impression que ça se passe beaucoup à Londres, et de la même façon que ce côté-ci de la Manche, ça se passe beaucoup à Paris. Alors, à part quelques-uns qui sont rares en région, par exemple Harry Lester, le chef anglais du Saint-Eutrope à Clermont-Ferrand, ou le Beans à Marseille, mais à vrai dire, ce qui se passe là beaucoup, c'est dans la capitale française et c'est dans la capitale anglaise. C'est ce que vous constatez aussi l'année et l'autre.
Je confirme.
Si jamais il y aura une deuxième entente en France dans l'avenir, je pense peut-être Bordeaux ou peut-être Bruxelles, mais ça va rester quand même, ou peut-être Genève, on ne sait rien dans l'avenir, mais les villes francophones, mais en France, il n'y a pas, c'est
et vous,
c'est pareil. Oui.
Et vous constatez vous-même, Oliver Woodhead et Hélène Picken, depuis quelques années, ici, de ce côté-ci de la Manche, un vrai engouement ou c'est un effet de mode ou relayé par les médias
Non, c'est un vrai engouement, parce que les Français font ces voyages, ils vont à Londres, donc ils ont envie de retrouver la même chose à Paris.
Oui, bah, j'ai dit à cette fameux restaurant, il y a quelques semaines, j'avais la chance, c'était à Londres, 24 heures. Et nos premiers voisins, c'était une famille française avec des enfants, en train de dévaliser tout. Ensuite, quand ils sont partis, il y a de nouveaux Français qui arrivaient. Tu vois, dans le restaurant emblématique british. Alors oui, il y avait suffisamment des Français qui sont travaillés souvent dans la finance à Londres, dans l'hospitalité, dans les années 90, dans le noughties, etc., qui sont revenus. Au restaurant, on va dire 90% de mes clients, c'est des Français. Et sur cette 100% des clients français, il y a au moins un tiers qui connaissent par cœur ma carte, qui connaissent le bouffe anglais, qui veut retrouver certains plats. Et voilà. Après, il y a un autre tiers qui savent, mais qui ne sont pas trop sûrs. Et après, il y a un tiers qui rentre, qui sont quand même un peu fermés, et on arrive à convertir.
Qui se disent, oui, bon, alors je vais arrêter avec mes souvenirs de voyage scolaire, par exemple, mes clichés de français. Ouais. Bon, et puis, il y a peut-être aussi le succès de séries en France comme The Crown, qui a redonné ses lettres de noblesse à toute la culture anglaise, y compris la cuisine.
Downton Abbey.
Downton Abbey aussi, Et puis l'exportation de chefs, de grands chefs françaises et françaises, Hélène Darroze, Cyril Lignac, Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic. Ils sont souvent dans des palaces, c'est des grands chefs étoilés qui sont allés s'installer. Et puis de l'autre côté, effectivement, côté anglais là-bas, à Londres, Jamie Oliver, Yota Motolenghi, qui a énormément de succès
et qui va ouvrir
en France.
Restaurant à Paris.
Bon, et ben il va avoir rencontré beaucoup de succès. Gordon Ramsay, Delia Smith aussi. Puis dans les nouvelles générations, alors c'est peut-être plus sur les réseaux sociaux, mais quand même, Thomas Traker, par exemple, est un chef qui fonctionne bien. Qu'est-ce qui, pour vous, symbolise ce renouvellement ou cette modernisation de la cuisine anglaise? Est-ce que c'est par exemple une cuisine, vous parliez tout à l'heure de Oliver Woodhead, de la cuisine melting pot, est-ce que c'est aussi une cuisine cosmopolite?
Pas forcément, mais c'est une cuisine accessible à la ménagère. Voilà, la ménagère peut se projeter. Moi, je sais que quand je regarde les vidéos, ça me donne envie parce que c'est des produits frais, des produits de saison. C'est.
Accessible
à tout le monde, contrairement à la cuisine française qui est plus codifiée.
Oui, il y a certains plats que c'est très mal conseillé d'essayer à la maison, par exemple beef Wellington qui est assez compliqué à préparer. Mais pour la plupart des choses, la cuisine britannique traditionnelle est facile à faire à la maison. Ouais. Mais également, on est assez fort en marketing. aussi, c'est des plats. Quand c'est très bien fait et simple, c'est très photogénique, très Instagrammable, très...
Pas tous. L'Algélie qui gigote dans tous les sens, c'est pas extrêmement Instagrammable.
Je suis pas d'accord. Je vais redonner de la noblesse à l'Algélie. J'adore ça quand elle est faite maison avec...
Trifle. Custard.
C'est délicieux.
Ce qui est très important, c'est à chaque fois ce que vous avez dit l'un et l'autre. C'est-à-dire à la fois, c'est les produits. Oui. Et c'est quand même avant tout le fait maison.
Oui.
C'est ce qu'on essaie de défendre le plus possible ici dans cette émission. De toute façon, ça ne concerne pas que la cuisine anglaise, mais l'un des gros problèmes, c'est quand c'est fait industriellement et qu'on ne sait pas d'où viennent les produits. C'est l'un et l'autre. Je pense que vous militez aussi pour un retour à la cuisine.
C'est toujours le message que j'essaie de donner en cuisine. Je veux que les plats ils restent hyper simples. Tu rentres, tu dis mais je peux faire. Presque faire ça à la maison. Après, goûter. Parce que le bouillon est très... On va jusqu'au bout avec tout ce qu'on fait. Mais ton premier regard, c'est très simple, ça. Je peux peut-être faire à la maison. Mais,
si évident que ça.
Non.
Il y a autre chose qu'on a constaté, c'est un engouement aussi pour le thé qui devient aussi raffiné que le vin dans certains restaurants. Vous servez du thé à l'entente, par exemple, Oliver Woodhead?
Je viens de faire une grosse commande à une société qui s'appelle The Rare Tea Company et gérée par The Tea Lady. Ils sont sur tous les meilleures tables du monde et le nôtre aussi. J'achète, tout le monde peut acheter. Et le petit théière en verre individuel. Ils sont magnifiques, single estate, à peu près aussi comme dans les cafés, mais avec beaucoup, beaucoup d'attention, exactement comme les vins. C'est déguste, on peut faire les cocktails avec, les cocktails sans alcool, on cuisine avec, nous on met dans les pruneaux par exemple, souvent le Earl Grey, ils sont infusés au Earl Grey.
Les raisins secs dans les gâteaux aussi.
Absolument. beaucoup de choses.
Vous avez mis des raisins secs dans le gâteau que vous avez apporté, Alain Guiguet?
Oui, mais alors, par c'est contre, quoi ce gâteau, c'est du, là? C'est du sherry. Vous avez des raisins qui sont macérés avec du sherry et du cognac. C'est le Rich Fruit Cakes. C'est le gâteau de mariage. Bon, c'est la décoration.
C'est un gâteau
de
fête.
Il n'y a pas la décoration, mais c'est la base.
C'est un gâteau de fête.
Oui. Ouais.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons réaliser une recette franco-anglaise.
Ouais.
Qui s'intitule d'ailleurs en français la terrine de gelée de merle sans merle, et en anglais
le water pudding.
Alors, Milady, voulez-vous que nous commencions? Vous prenez un litre d'eau ordinaire que vous avez pris soin de faire préalablement bouillir.
Il est là-dedans, attendez voir, c'est bien bouilli?
Oui, c'est bien bouilli. Alors, un litre, comptez-moi un litre là-dedans, vous serez bien aimable.
Ne bougez pas.
Alors, un demi-litre, voilà.
Voilà.
Et un second demi-litre.
Là.
Voilà.
Et ce sont les éléments fondamentaux de la cuisine anglaise.
Comme quoi, hein, ça peut-être un peu vieilli. On le disait, 1956, Pierre Dac et Francis Blanche, les éléments fondamentaux de la cuisine anglaise. Heureusement, vous avez de l'humour, vous les Anglais quand même. L'eau et les grumeaux, peut-être qu'on fait mieux aujourd'hui dans les produits. Alors justement, quels sont les produits Oliver Hoodhead que vous utilisez vous? Quels sont les produits de base, sachant que à l'entente, le British Brasserie, vous faites donc de la cuisine anglaise. Typiquement british, mais avec des produits made in France.
Absolument, produits vrais. On est très censé être produits terroir français parce qu'on est en France. Sauf le fromage, qui est britannique, bien sûr, et le saumon fumé, qui est écossais. Et après, il y a certains condiments qu'on ne peut pas vivre sans. Par exemple, le vinaigre de Malte, qu'on met dans beaucoup de nos sauces. On fabrique chez nous une sauce de tomate, the brown sauce pour les brunchs, les week-ends. Il y a le vinaigre dans beaucoup de choses. Ensuite, la moutarde anglaise, aussi, qui pique, qui est jaune et en poudre, absolument. Dans les deux façons, mais en poudre en cuisine, pour le beef Wellington, pour le piccalilli, pour le Welsh rabbit,
c'est quoi le Welsh rabbit?
Welsh rabbit, quand c'est fait bien, c'est un peu comme un croque, mais mieux.
Oui. Non, je confirme.
Cheddar fondu, moutarde anglaise,
bière.
Sauce Worcestershire.
Absolument.
Et une glace de bière. Anglaise,
ouais. Ah, j'ai oublié le sauce Worcestershire, le fameux Liam Perrins, qui pareil, on met dans le hachis parmentier, qu'on met partout. Et ça sert
c'est de l'essence d'anchois.
Absolument. Ouais.
Mais les produits que vous ne trouvez pas en France, vous les importez d'Angleterre?
Oui, c'est compliqué. Bah, depuis Brexit, la seule société qui faisait ça en France a disparu. Il y a deux solutions, par Irlande ou par Allemagne. Ou, de temps en temps, dans les, je ne sais pas si je peux dire, dans les coffres des voitures de mes amis.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que je fais, moi.
Oui, mais nous, on a besoin des grandes quantités, ça devient un peu plus compliqué.
Ouais. Pourtant, il a ouvert aussi un certain nombre d'épiceries, traiteurs, à Paris notamment, où vous êtes, hein, l'un et l'autre, où vous pouvez sans doute aller vous...
Dans les quantités catering, c'est compliqué, oui.
Ouais.
Parce que, il faut beaucoup. Et après, il y a également le treacle et golden syrup. Mm. Ça, c'est les deux autres choses. Alors, il y a à peu près 6 condiments britanniques qui forment la base de la moitié de notre carte.
D'ailleurs, il y a du treacle.
Dans le gâteau, plum cake noire, que vous avez fait, le gâteau de fête, Hélène Picquen. Alors, l'entente, c'est donc une élégante brasserie avec boiserie à cajou, banquette bleu clair en cuir, argenterie vintage. On est dans une brasserie très élégante. On est au cœur du vieux Londres, c'est ça votre idée? Ou du jeune Londres?
Oui, genre, c'était pas fait exprès, malheureusement. Si, c'était fait exprès, mais naturellement, c'est moi qui ai fait, j'avais pas, c'est mes racines, ouais.
Vous avez même des petites citations sur les murs.
Absolument, parce que le logo de restaurant, c'est quand même une torte. Avec le logo était fait par un artiste assez connu. Et il y a le mail qui sort. Et il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Alors souvent, je sors le mail en céramique. Oui. C'est en forme de cheminée. Mm. Et après, il y avait un poème et un morceau qui était de 16e siècle, probablement pour Henri VIII, qui est 4 and 20 blackbirds. Et quand vous avez, et ils sont glissés les oiseaux juste en dessous le pâte feuilletée, au moment qu'ils sortent la torte, ensuite ils coupent la torte et l'oiseau qui sort. Mmh. Et voilà, c'est le logo du restaurant.
Vous proposez évidemment les pies. Alors, les pies, on dit que c'est des tourtes farcies, souvent à la viande, mais pas que.
Pas que.
Qu'est-ce que vous proposez, Oliver Woodhead?
En ce moment, c'est poulet fermier et champignons. Mmh. Souvent, c'est poulet fermier et poireaux. Mais pendant les saisons de chasse, venison pie. Ah. Et vous avez le nom pour tous les, pour tout ce qui est biche, chevreuil, etc.
Le gibier.
Le gibier. Mais chez nous, il y a un seul mot pour quand ça devient la viande. Et voilà, on fait ça pendant 4 mois et c'est génial.
Qu'est-ce que vous feriez comme différence entre la pie vraiment typiquement anglaise que vous proposez vous, par exemple, et que vous faites également, Hélène Picken, que vous, dans les recettes que vous proposez sur votre blog, et nos quiches traditionnelles, ou nos propres tourtes, puisqu'on parle de tourtes. Est-ce que c'est spécifiquement, en tous les cas originellement, traditionnellement, farci à de la viande, quelle qu'elle soit?
90% des fois, oui. Vous pouvez avoir le fameux fish pie, mais souvent ça, c'est un topping de purée de pommes de terre, et c'est pas. Mais vous pouvez faire avec le pâte feuilletée. Mais le fish pie, c'est un mélange de deux ou trois. Si vous voulez, c'est un petit peu le bouilli basse anglais.
C'est un mélange de poisson.
Oui, mélangé avec deux ou trois poissons différentes, avec le petit pois, souvent les crevettes aussi. Ça, c'est excellent.
Ah oui, c'est.
Fish pie.
Les enfants adorent.
Le shepherd's pie, c'est shepherd's le cousin du hachis parmentier aussi.
Oui, ça c'est notre. Alors shepherd's pie, c'est hachis parmentier d'agneau, et cottage pie, c'est hachis parmentier classique de bœuf. Sauf chez nous, le petit caractère, les Anglais vont toujours ajouter le sauce Worcestershire dedans pour cette petite piqueur de poisson, des anchois marinés.
Oui. Et puis bien entendu, on ne peut pas terminer cette émission sans évoquer un de vos best-sellers, à vous, à l'entente Oliver Woodhead, mais aussi de façon globale en Angleterre et donc maintenant en France, puisque les Français en raffolent, c'est le grand classique, le fish and chips. Écoutez donc cet extrait d'un reportage de France 3, Languedoc-Roussillon. C'est une archivina de 2012. Nous sommes à Cavanac. Une Jamaïcaine s'est installée dans un food truck où elle fait des fish and chips qui rencontrent un grand succès. Écoutez.
Chicken and mushroom pie, please. With a normal chips.
C'est comme un air venu des îles britanniques, une atmosphère british qui imprègne le village de Cavanac. Tous les mercredis, Bella Harry s'installe avec son camion ambulant et propose à la clientèle le fish and chips, le plat emblématique d'outre-Manche. Attablé et peu sensible à la fraîcheur de ce début d'automne, les Britanniques se régalent.
Moi, personnellement, je préfère la cuisine française, mais non, ça c'est bien, ça c'est le point cuisine anglaise.
Les Anglais aiment bien les fish and chips. Et quand les Français, ils goûtent les poissons, ils aiment bien aussi.
Mais alors, le fish and chips Kezako, tout simplement du cabillaud pané accompagné de frites, avec un petit secret, de la bière dans la pâte.
C'est vrai ça, vous mettez de la bière dans la pâte, Oliver Woodhead?
Un petit peu, ouais. Tout petit peu.
Ça apporte quoi?
Une légèreté, ça l'aide à mousser le pâte, mais il n'y a pas que ça. Chez nous, on fait le pâte devant chaque service. Le poisson est livré 3 fois par semaine. C'est le lieu noir. Nos frites sont.
C'est pas toujours du lieu noir.
Non, non,
chez
non,
vous,
pas
c'est
toujours.
Les cabillauds, là, c'est vraiment du lieu noir.
Absolument.
Ouais. Et, issu de la pêche responsable, c'est important
absolument,
à dire.
Absolument. Et ensuite, avec nos frites 3 fois cuites, qui est une grande prise de tête.
Mais... Oui, mais alors ça, ça a l'air d'être une grande, peut-être prise de tête, mais aussi une grande particularité de chez vous.
Absolument.
On dit déjà que les très bonnes frites sont frites deux fois. Vous, c'est 3 fois.
Oui, et on était.
Cuite à la vapeur, puis à triple cuisson.
Oui, et c'est un refroidissement, salut refroidissement. Ouais. Premier bain, refroidi. Et après, pour le service, c'est très rapide, c'est 3 ou 4 minutes. Et voilà, il sort croustillant à l'extérieur et fluffy à l'intérieur. Et on était même.
C'est très anglais.
Et on était
c'est...
même au championnat du monde des frites, qui était une grande surprise pour moi, qui était assez chouette.
Ouais. Et le Figaro a mis votre fish and chips et vos frites parmi les 100 plats à goûter au moins une fois dans sa vie à Paris. Donc, c'est pas peu dire. Vous, Hélène Picken, qui avez goûté ce fish and chips, qui a eu la chance de goûter ce fish and chips, hein, à l'entente, le British Brasserie de Oliver Woodhead. Qu'est-ce que ce fish and chips, avec ses frites triple cuisson, triple friture,
ça vous en met,
qu'est-ce qu'il a de particulier? Fermez vos oreilles, Oliver Woodhead.
Ouais, non, mais forcément, quand vous avez du bon poisson, vous ne pouvez qu'apprécier le fish and chips. Et ça, la légèreté de la pâte aussi, qui est intéressante. Mm. Et il y a les mushy peas avec.
Non,
il n'y a pas de
mais,
sauce tartare maison.
Sauce tartare maison, oui. Tartare. Ah oui, absolument, ouais, exact. Ouais. Et on change l'huile régulièrement, on filtre tous les jours.
Ça se voit sur le poisson.
Sinon, ça devient très gras.
Alors que là, ça n'est pas spécialement gras.
Non, c'est fluffy. Très léger.
Ouais. C'est fluffy léger. Et croustillant. Ouais. Et ça n'est pas spécialement
c'est toujours
grave.
C'est un peu mauvais à trouver le mot fluffy en français. Oui.
À la question, est-ce qu'un plat pourrait connaître à Paris le même succès que le burger américain ou que le sushi japonais ? L'une des autrices du livre Angleterre, que je citais en introduction, dit Piccalilli Pasty, édité à la Martinière, répond le Battenberg Cake, un gâteau composé de carrés de pâtes colorées. Et elle dit, ça sera ça, la prochaine star d'Instagram. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça l'est déjà, mais depuis longtemps. Ah. Parce que c'est vrai que c'est, bon, c'est joli, mais
C'est marrant parce qu'on fait, on travaille avec une certaine marque britannique. On fait les catering pour eux tout le temps. Et un des échantillons qu'on a fait, goûter, c'était le Battenberg qui va revenir. Et nous, normalement, on décide qu'est-ce qu'on va faire le catering pour cette marque. Et ensuite, on incorpore tous les plats dans le menu du mois. Et je sais qu'en septembre, on va voir Battenberg à la carte. Oui.
C'est vrai que c'est joli. Mais
c'est très, bah oui,
c'est joli, mais c'est pas très bon, c'est ça?
Si, mais c'est un sponge cake avec de la confiture. C'est coloré. Et je crois qu'il y a de la marzipane autour.
Et marzipane, absolument.
Sinon, à la carte des desserts, c'est le gâteau au gingembre cuit à la vapeur que vous proposez?
Il y a ça. Bon, mais il y a une certaine rotation pour le pudding. En ce moment, c'est sticky toffee pudding. Mm. Ça peut être marmalade pudding. Lemon possette. Lemon possette est toujours un grand classique. Ouais.
Alors, lemon possette, c'est la crème au citron naturellement caillée, j'ai dit.
Ouais. Oui. C'est un petit peu comme un panna cotta sans gélatine.
C'est pas mal.
C'était une boisson médicinale au Moyen-Âge.
Vous apprenez quelque chose à moi et donc sans doute à pas mal de nos auditeurs, nos auditrices. Hélène Piquen, vous êtes arrivée donc avec ce gâteau de fête que nous allons déguster avec l'équipe qui nous regarde en salivant déjà de l'autre côté de la vitre. Mais vous nous proposez pour le site internet de l'émission, pour la page des bonnes choses, la recette. Alors vous avez commencé à dire de l'apple pie. À ce moment-là, Oliver Hooded a dit « Ah non, apple pie c'est américain », mais vous dites « British apple pie » ou alors « British apple crumble ». On peut dire
apple crumble.
Donc, quelle est la différence entre le British apple pie et l'apple crumble?
L'apple crumble, c'est des fruits cuits avec du sucre et sur le dessus, vous avez une pâte à crumble. Donc, c'est farine, sucre, beurre. Voilà, le beurre.
Et, indispensable.
La British pie, c'est entre deux couches de pâtes brisées.
Comme une tourte, mais
voilà,
sucrée.
Comme une tourte. Oui.
Absolument.
Et quelle est la différence avec l'apple pie américaine? Parce que vous vouliez pas qu'on confonde Oliver Hooded.
Je pense que l'apple pie américain est probablement plus sucré.
Ouais. C'est toujours plus sucré.
Oui, gentiment. Ouais.
Bon, un grand merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces saveurs anglaises. Hélène Piquen, on peut retrouver votre blog, bien sûr, on mettra tous les liens sur notre page, bien entendu aussi votre restaurant L'Entente, le British Brasserie, à vous Oliver Hooded, qu'on mettra sur notre page. On peut retrouver aussi un nouveau restaurant qui a ouvert fin mars 2024, le Public House dans le quartier d'Opéra à Paris, par le chef Callum Franklin, surnommé par Jamie Oliver The Pie King. Comme quoi, le livre Angleterre de Sarah Lachab et Aurélie Bellachico aux éditions La Martinière. Il y a un certain nombre d'autres adresses que nous avons repérées ici ou là. Alors c'est à Paris surtout, on l'a dit, mais si vous faites un tour dans la capitale, vous aurez de bonnes adresses et ainsi que des conseils dans le livre et sur le blog d'Hélène Piquen. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec Siam Boutata à la préparation, Colin Gruel à la réalisation et Florent Bujon aujourd'hui à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.